De nouveau rendez-vous, on est toujours en direct du studio 621 sur France Inter avec un homme qui marche, c'est le titre d'une chanson et c'est celui du best-of de notre invité, Étienne Dao, bonsoir.
Bonsoir.
Un double CD, un film documentaire, une BD, ça tient Étienne Dao, un itinéraire pop, une rétrospective, le mythomane en 1981 à la recherche des chansons de l'innocence retrouvées en 2013. Étienne Dao, un homme qui marche, le best-of s'écoute comme une rétrospective avec un premier titre qui annonce le programme, Il ne dira rien. Nos réalisateurs Koy Nguyen et Sonia Leglen ont contourné la difficulté. Voici ce qu'ils vous font dire dans le mix en plus d'une minute, mais en moins de deux.
L'âge de 8 ans, oui, c'était un cadeau de Noël. C'était à la locomotive, il y avait un club qui s'appelait la locomotive. Il y avait donc cette petite machine où on mettait 5 balles à l'époque et on avait un temps pour parler ou chanter ou faire ce qu'on voulait. Et au bout de 5 minutes, il y avait le disque qui sortait tout rutilant avec une étiquette, etc. J'avais enregistré une chanson du Gaufret, parce que c'était ce qui me concernait à l'époque où j'étais petit, et ça s'appelait Tout le long du chemin.
La première fois que je l'ai vu, c'était en playback orchestre. Donc il chantait vraiment, et j'étais complètement étonné, j'ai jamais vu un mec chanter aussi faux, quoi. Les sorties de scène, il m'a dit, c'est nul complètement ce que j'ai fait, je lui ai dit, ouais, c'est nul.
Salut Étienne.
Salut Jean-Loup.
Bon, alors on parle de toi vraiment dans toute la presse.
Oui. Alors j'ai fait un album en 82 avec les musiciens de Mark Gibson, parce que je suis de Rennes. Et on a fait ce premier album produit par Jacques Lou.
Qu'est-ce qu'il aimait comme musique?
Il aimait bien ce qu'on faisait donc avec Jelly. Il aimait bien Françoise Hardy. Il aimait bien Ricky Nelson. Il aimait bien Velvet Underground. Je sais pas, beaucoup de choses.
C'était atroce parce qu'en fait je l'ai attendu, le premier album, vous rendez compte. Et en fait il y avait un problème de gravure, et ce qui fait que quand j'ai posé le diamant sur le premier sillon, il a fait 3 bonds et le disque était fini. J'ai failli me trancher les veines quoi.
Il est très perfectionniste, autant au point de vue disque, au point de vue pochette, qu'au point de vue concert, au point de vue gens qui l'entourent.
Je déteste les amplis en fait, je préfère les amplis vraiment qui sont pas digitaux. On se casse le cul en studio pour faire du beau son et puis après il y a des espèces d'effets complètement débiles qui abîment tout.
Je relisais là quelques articles de presse où tu déclarais ou alors je serai en haut du panier ou ça sera le caniveau.
Mais la gloire ou le caniveau, oui.
Ouais, de toute façon, je ferai que ce que j'ai envie de faire. Bon, pour l'instant, on peut constater que c'est pas le caniveau.
Non, c'est toujours pas le caniveau, Étienne Dao.
Ah là là, vous avez été chercher des choses
très
anciennes.
Très loin, très anciennes, mais ouais. Des choses qui racontent quand même quelque chose. À un moment donné, vous vous énervez quand vous parlez des amplis, qui ne sont pas les mêmes quand on fait un enregistrement en studio, puis quand on va en concert. Et on comprend bien, à travers cet extrait, que toute l'attention que vous portez au son de vos albums et en concert.
Oui. Ouais. C'est mon travail.
Et à ce propos, je lisais qu'il existe un système Dao qui a été mis au point dans les années 90, c'est l'histoire de 2 micros et qu'à l'époque, ça avait même surpris les gens et notamment les journalistes. C'est quoi ce système?
Ah oui,
non,
mais ça a été très complexe pour moi après. Parce qu'en fait, les gens pensaient qu'il fallait 2 micros pour pouvoir me sonoriser. Et en fait, c'était un micro hors phase. C'était une très bonne, mauvaise idée de l'ingénieur du son avec qui je tournais. Mais c'était beaucoup utilisé dans les années 60. C'est un système qui permet d'avoir beaucoup de bruit sur scène, mais d'isoler la voix. Voilà.
Parce qu'il y avait beaucoup de bruit sur scène pour vous ?
L'image d'un mec qui chante avec 2 micros,
ah oui, ça pouvait
quand
être
même,
très
c'est
très...
un peu c'est meurtrier.
Et ça l'a vraiment été ?
Oui, bah oui.
C'est à partir de là qu'est née cette légende, qu'on ne vous entend pas chanter, que vous êtes Mylène Farmer au masculin, etc. etc. Étienne Dao ?
Oui, c'est vrai. Ouais.
C'est à partir de ce moment-là.
Bravo
à l'ingénieur du son. Vous évoquez aussi dans le mix de Koy Nguyen et Sonia Leglen le premier disque que vous avez enregistré enfant, j'imagine, ou adolescent.
Oui.
Une chanson d'Hugo Frey, une chanson de
Scout.
On
voit ça dans un film de Godard, je crois. C'est une espèce de photomaton dans lequel au lieu d'avoir des photos, c'est un disque qui sort assez épais. Et je l'ai toujours, d'ailleurs.
Mais il ne marche toujours pas.
Parce que
à l'époque, manifestement, vous avez mis.
Ah, c'est pas la même chose, non, non, non.
Ah, d'accord.
Quand je parle
chose.
De. Non, ça, c'était un disque que j'ai enregistré quand j'avais 7 ans, un truc comme ça.
D'accord.
C'était pour une fête des mères. Non, après, mon premier album, c'était autre chose. C'était un album qu'on n'arrivait pas à graver. Et j'avais attendu tout l'après-midi pour l'écouter. J'attendais le moment vraiment. Le moment opportun pour pouvoir vraiment écouter mon premier album.
Donc, c'était Mythomane.
Tellement... Oui, c'était vraiment un événement. J'aurais jamais imaginé que je puisse faire un album un jour. Donc quand il est arrivé, c'était un moment très fort, très émouvant. Et puis en fait, ça a fait 3 bons et c'était fini.
Voilà. Marion, vous voulez poser une question?
C'était atroce.
Par rapport à la scène, parce qu'aujourd'hui, vous y prenez un plaisir incroyable.
J'ai toujours aimé la scène. Je suis né sur scène.
Oui, mais justement, avec cette histoire de légende, avec ce micro, avec ce double micro et tout, on avait l'impression que ce n'était pas toujours le cas. On avait l'impression que vous n'étiez peut-être pas hyper à l'aise sur scène. Donc, ce n'est pas ça. Vous avez surmonté cette crainte.
Je déteste la télé, c'est vrai. Je n'aime pas le côté loop. Et j'ai toujours été très mal à l'aise en télé. Je pense que c'est cette image de télé qui a un peu débordé sur la scène. La scène, ça s'est toujours très très bien passé. Et j'ai toujours évidemment adoré ça. Il nous dira pas non, il nous dira pas.
Étienne Dao, quand on ouvre son best-of, L'homme qui marche, avec ce premier titre, Il ne dira pas, on se dit, c'est foutu. Pour les interviews, ça va être assez difficile.
Ah oui, mais je devais faire qu'un album, donc voilà.
Il ne dira pas.
J'annonçais la couleur, moi j'étais honnête. Hein.
C'était en plus le titre qui ouvrait même l'album Mythomane en 80.
Oui, c'était le premier single. Énorme flop.
Le plus grand flop. Un accident industriel, dit Jacques Noe d'ailleurs dans le documentaire qui vous est consacré. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire à vos débuts ou que vous ne pouviez pas dire?
Tout ce que j'ai listé, j'ai fait le catalogue de toutes les choses dont je ne vais pas parler, mais dont j'ai parlé, en fait.
Oui.
Voilà.
Alors, vous allez en parler un peu plus tard. À ce moment-là, donc, on est en 81, et vous projetiez de vous appeler Étienne Dao Junior. C'était d'ailleurs ce qui était écrit au Transmusical pour le premier concert.
Oui, sur l'affiche. Oui.
Sur l'affiche, ce que vous vouliez écrire aussi sur la pochette du disque, Mythomane.
Oui.
Et c'est Élie plus Jacques Noe qui vous ont complètement dissuadé.
Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui.
Pour quelle raison fallait-il s'appeler Étienne Dao Junior? Parce que vous y teniez véritablement à l'époque.
Parce que mon père... s'appelle Étienne aussi, ça s'appelait Étienne aussi. Et voilà, je m'appelais Junior, on m'appelait Junior, donc pour moi c'était évident de m'appeler Étienne Dao Junior. Et Élie et Jacques Noe trouvaient ça vraiment pas bien, donc ils ont eu raison.
Junior tout court.
Junior tout court, ça en fait un peu mic. S'appeler Junior, est-ce que ça voulait dire que votre père aussi était dans la musique? Est-ce qu'il y avait une filiation possible?
Non, pas du tout. C'était un amateur de musique. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un à la closerie des Lilas qui est venu vers moi, qui m'a dit « j'ai très bien connu votre père ». Donc moi, l'ayant si peu connu, tout d'un coup, je suis interpellé. Et il m'a parlé de mon père pendant quelques... je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, et il faisait la trompette avec lui. Voilà.
Ah oui, donc j'étais un musicien. Ouais.
Donc j'ai eu des infos que je n'avais pas.
Dans le documentaire.
C'est un fan de jazz surtout. Voilà.
Dans le documentaire, un itinéraire pop qui accompagne les best-of et qui passera sur Arte le 21 novembre, il y a un entretien à la radio où vous évoquez ce que vous taisiez.
Étienne Dao. Alors on vous croit à Breton, en fait vous êtes né à Oran.
Oui, je suis né à Oran, oui.
Et votre enfance va se dérouler en Algérie?
Oui, j'ai passé un peu de temps à Oran. Et puis comme je suis né en 56, il y avait la guerre. Donc mes grands-parents m'ont acheté dans un petit village de plage qui se trouve près d'Oran. Ça s'appelle Cap Falcon, c'est un très joli endroit. Un commerce, disons, qui était partagé en deux, comme ça, entre un débit de soda, glace, etc. et une épicerie. Et j'ai vécu la plus grande partie de mon enfance dans cet endroit. Qui m'a beaucoup marqué. J'y pense tous les jours, quasiment.
Les événements ont été troublés. Est-ce que vous aviez conscience de tout ça, vous?
Oui, j'avais conscience de tout ça, parce qu'en fait, il y a eu des événements assez tragiques où nous étions, mes sœurs, ma mère et moi, dans l'appartement que nous avions à Oran. Et on a failli se faire brûler vif. Il est arrivé d'enjamber les cadavres en rentrant de l'école. C'est des choses que j'oublie pas, bien sûr.
Qu'est-ce qui a libéré la parole, justement, pour que vous évoquiez ça un peu plus tard, dans les années 90?
Une espèce d'explosion globale. Dans les années 90, j'ai eu besoin d'exprimer tout ça. Voilà. Et j'en ai fait un disque qui s'appelle Eden.
Qui s'appelle Eden, ouais.
Dans lequel il y a tout ça. Et c'est, tout d'un coup, il me paraissait vraiment indispensable de pouvoir dire ce que j'avais tu jusqu'à présent. Puisque, voilà, j'avais envie d'être un homme, une personne toute neuve, sans histoire, quand j'ai commencé à faire de la musique. Quand on a un passé comme ça très chaotique, qu'on essaie de s'intégrer dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une histoire un peu inhabituelle, on n'a pas ses parents, tout ça. Enfin, on ne peut pas expliquer ça aux autres. Et donc, on devient quelqu'un de neuf, et donc, on ne dit pas. En plus, je suis quelqu'un d'assez pudique, et puis tous les hommes de ma génération communiquent assez peu sur leurs émotions. C'est comme ça. Donc voilà, ça faisait beaucoup.
C'est intéressant que vous évoquiez Eden, parce que je me souviens à l'époque, il y avait même un jeu dans ce CD.
Oui, oui, oui.
Il y avait un jeu, il était question, je crois, d'un petit garçon, il s'appelait Étienne, il avait 10 ans, et puis il y avait une sirène, on devait faire pas mal d'épreuves.
Mmh, c'est un parcours initiatique.
Et on vieillissait, etc.
Pour devenir adulte. Ouais.
C'est vous qui aviez initié ce jeu, dans
oui,
le CD.
Oui, c'était les débuts de ce genre de jeu, oui.
Et ce jeu avait un rapport avec un souvenir d'enfance, précisément ?
Oui, ça se passait au Cap Falcon. Enfin, ça racontait tout d'un coup tout ce que j'avais vraiment mis un peu sous le tapis. Je l'ai mis en musique, en chanson. J'en ai fait quelque chose qui j'espère, était assez beau.
Aujourd'hui, vous êtes amateur de jeux vidéo, Étienne Dao ?
Je peux. J'ai un côté où je peux être complètement addict et jouer toute la nuit. Enfin, donc, je suis obligé de limiter...
Ah oui,
vous jouez à quoi? C'est ce que j'avais
aimé. Oh, la PlayStation, ça, vraiment j'adore tous ces jeux-là.
Et des jeux de combat, des jeux...
Oui, entre autres, oui. Des missions, des choses comme ça.
Avec des Glock.
Assassin's Creed, par exemple, des choses comme ça?
Non, ça je ne le connais pas, celui-là.
L'enfance en Algérie, ce souvenir du paradis perdu, hein, qui est évoqué d'ailleurs dans Aden, ça me fait penser à ce qu'a vécu aussi Yves Saint-Laurent, qui avait ce point commun avec vous, hein, cette enfance.
Oui.
Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous avez échangé sur cette enfance?
C'était un truc incroyable, parce qu'en fait, Bettina Graziani, je ne sais pas si vous
Bettina,
vous
souvenez. Oui, une de ses mannequins.
Voilà, c'est ça. Bettina, que j'aimais beaucoup, m'avait invité un soir à dîner chez elle. Il y avait Yves Saint-Laurent, Françoise Sagan, Dany et moi.
Ah oui, elle avait le sens du casting.
Et c'est dans sa toute petite cuisine, et ça a été extraordinaire. Et justement, avec Yves Saint-Laurent, qui était mon voisin, puisqu'il habitait au Cap Falcon. Donc, quand je parlais du Cap Falcon, pour moi, c'était un peu la planète Mars. D'ailleurs, personne ne connaissait cet endroit. Et je savais que lui avait une maison là-bas, enfin ses parents en tout cas. Et donc, nous avons parlé du Cap Falcon tous les deux. On avait l'impression de parler d'une planète qui n'existait plus du tout. Mais c'était très étrange. Il était très surpris que je vienne moi aussi de cet endroit.
Quand on ouvre sur un titre de Mythomane, ça raconte aussi le son que vous avez créé à l'époque. On écoute le journaliste Jean-Éric Perrin, le réalisateur de l'album Jacquenot, et vous-même, Étienne Dao.
Mythomane, c'est un disque qui ressemble à rien d'autre de ce qui se fait à ce moment-là. On sentait qu'il y avait une culture rock derrière, on sentait que les gens qui jouaient avec lui sur ce disque étaient des gens qui faisaient du rock, que ce soit Darcel ou Jacquenot. Mais lui arrivait avec une espèce de légèreté, une fraîcheur, une candeur qui existait nulle part ailleurs à l'époque.
D'avoir produit son premier album qui a été un record d'invendu, dont je suis fier. Parce que si tu veux, c'est ça qui fait les légendes.
Je faisais des chansons parce que d'abord j'avais pas le choix, mais je faisais aussi ça pour me faire plaisir. Parce que c'était un mode de vie qui était parfait pour moi, qui faisait que je ne deviendrais pas un psychopathe et que j'aurais des chances de m'en sortir dans la vie. Voilà. Et que j'étais porté par quelque chose qui était au-delà du plaisir. Voilà, j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse ça, quoi. C'était essentiel.
Eh bien, à ce sujet, on a une question de notre invité, le journaliste spécialiste du grand banditisme, Frédéric Ploquin. Il était là en première heure. Voici ce qu'il vous pose.
Est-ce qu'il a hésité entre la chanson, entre la guitare et la Kalachnikov?
C'est peut-être très, très... Oui, le choix...
Bah, la guitare, bien sûr.
Oui, bien entendu.
C'est une arme redoutable.
Non, mais tout à l'heure, dans l'extrait, quand vous disiez que vous auriez pu finir psychopathe, c'est quoi, en fait, cette histoire?
Non, je pense que j'aurais pu très mal tourner. J'ai transformé tout ce qui était chaotique en musique. C'est une chance d'avoir pu le faire. j'ai eu de la chance de pouvoir avoir cette passion, cette chose énorme qui est ce... Voilà, c'est une vocation. Ça m'a sauvé, véritablement. Ma musique, par la suite, mais la musique des autres avant. Je me suis construit grâce aux artistes que j'adorais, quoi, qui m'ont vraiment structuré. Ça me fait toujours très étrange d'entendre Jacques Naud parler. C'est tellement, tellement un manque encore, toujours.
La dernière fois que vous l'avez vu, Jacques Naud, c'était à quelle occasion?
On avait déjeuné ensemble dans un restaurant. Il avait fait fermer une salle parce qu'il voulait fumer. Évidemment, on ne pouvait pas fumer dans les... Et donc, voilà, il fumait toujours. Et c'était vraiment tellement quelqu'un qui avait... Même si on continue à avoir une relation, on a toujours une relation avec les gens qui sont plus là, je trouve. Un esprit, une rapidité, une manière de synthétiser les choses. Vraiment très surprenant tout le temps. Il fait partie de ces gens... On ne savait jamais ce qu'il allait vous dire avant de le voir. Souvent, les gens sont extrêmement prévisibles. Lui, jamais.
Sur ce nouveau best-of, Étienne Dao, il y a un inédit, une chanson que vous avez produite pour Daniel Darc en 1988, que l'on découvre aujourd'hui dans cette version en duo.
La ville est pleine de gens. La ville est pleine de méchants. La ville est pleine de bruit. La ville est pleine de cris. La ville est pleine de flics. La ville est pleine de trafic. La ville est pleine de tueurs. La ville est pleine de voleurs. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a que la ville pour me plaire. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Juste la ville. La ville est pleine de putes. La ville est pleine de disputes. La ville est pleine d'ordures. La ville est pleine de blessures. La ville est pleine de fous.
La ville est pleine de dégoût.
La ville est pleine d'ennuis. Qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a que la ville pour me plaire. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Juste la ville. Le brouillard sous la ville m'empêche de voir les yeux des filles. Alors je crois qu'ils sont bleus.
Je me souviens des tiens. Ouais, ils étaient bleus.
Qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a que la ville pour me plaire. Oh, j'en ai rien à faire. Juste la ville. Qu'est-ce que ça peut faire? Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Juste la ville.
La ville, un duo avec Daniel Darc, ex-Taxi Girl, c'est-à-dire toute une génération qui a construit le son pop électro des années 80. Ici même, c'est bizarre parce que Abdelmalik a chanté une chanson en hommage à Daniel Darc. Vous, qu'est-ce qui vous liait à ce chanteur, Étienne Dao?
On s'est connus de loin en loin, comme ça. Et puis, quand en 1988, il m'a demandé de produire un album pour lui. Et c'était un moment où j'avais beaucoup, beaucoup de travail. Puis je produisais aussi un disque pour un artiste avec lequel on avait un lien, tous les trois. C'était Bill Pritchard. Et donc, je n'ai pas pu réaliser cet album. Et je lui ai proposé qu'on fasse cette chanson, et dont cette version duo, qui était supposée être la face B, en fait, à l'époque, et qu'on n'a pas utilisée du tout.
Vous l'avez retrouvé comment, alors ?
Oh, ça a été toute une histoire, parce que j'ai vu Daniel dans la rue. On a commencé à parler, et puis tout d'un coup, on s'est remémoré cette version duo, en disant, ce serait génial de la sortir un jour. Tu l'as écoutée. Moi, j'avais une cassette quelque part, enfin, mais trop pourrie pour qu'on puisse vraiment l'exploiter, enfin, pour pouvoir la sortir. Et j'ai cherché pendant plus d'un an les documents. Et puis, en général, quand je faisais des productions, je gardais toujours des cassettes. À l'époque, c'était DAT. Et en allant chez ma mère à Rennes, j'ai trouvé, enfin, au moment de jeter un carton, il y avait du papier bulle. Et j'ai regardé quand même dedans et il y avait cette cassette. Il n'y avait que ça. Et donc, à partir de cette DAT, il y avait trois pistes. Donc, sa voix, la mienne, le playback. Et on a pu restaurer la version. Donc, c'est vraiment une rescapée, quoi.
Marion ?
La production, vous avez. Daniel Darc voulait que vous soyez son Bowie.
Oui, il me disait oui.
Moi, je serai ton Iggy.
Je serai ton Iggy, sois mon Bowie. C'est mignon. Hein.
Et après, vous avez produit d'autres gens, Dany, Lou Doyon. Est-ce que vous avez d'autres projets de production ?
Alors, oui, je viens travailler avec un groupe de Rennes, justement, qui était des gens avec lesquels j'ai commencé, qui s'appelle Les Nus. Et j'ai fait un titre sur leur album qui est vraiment magnifique.
Donc, il y a une reformation des Nus ?
Oui. Incroyable.
Incroyable quand même. Parce qu'ils avaient joué avec vous au Transmusical, non ? C'était à peu près cette
période-là. Oui, ils ont commencé avant moi. J'étais très admiratif d'Argelos, le leader. Et lui et Philippe Pascal, c'était vraiment des leaders très charismatiques. Il y avait vraiment une scène à Rennes vraiment passionnante. Quoi.
Il y avait un bruit qui courait autour d'un groupe, Savages, un groupe anglais, non ?
Ah non. Vous ne
confirmez pas ?
Non,
une légende urbaine.
Non, il y a eu des sessions avec Lou Doyon, parce que je voulais essayer de voir comment ça pouvait fonctionner avec Savages. Et voilà, on a fait un essai, mais non, je suis assez lié au groupe. On est très amis, oui.
Vous aimez ça, produire ?
J'adore ça. J'adore sortir du côté égocentré, comme ça, de la musique. Tout quand on parle de soi en long, en large, en travers, tout le temps. J'ai besoin d'aller vers les autres, de regarder les autres. C'est important pour moi. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre chez les autres. Donc, chaque album que je fais, qui suit une production, c'est jamais pareil. J'ai besoin de modifier des choses dans mon travail.
Est-ce que vous recevez, encore beaucoup de propositions, justement, pour produire ?
Oui. Oui. Oui.
Elles viennent de
qui ? J'ai besoin de tomber amoureux, en fait. Il faut que je tombe amoureux et que je sois dans l'obsession de l'autre, de l'artiste, pour pouvoir passer autant de temps. C'est ce qui s'est passé avec Lou. Pendant un an, elle m'a obsédé. Ça a duré un an de faire son premier disque.
Quand on regarde le best-of, on regarde aussi toutes les pochettes que vous avez faites à l'intérieur, avec une image qui a été votre image, iconique pendant quelques années. Elle a été construite en 1983. C'est la photographie de Pierre-Égile pour l'album La Notée, La Notée, avec le perroquet sur l'épaule. On écoute Pierre-Égile.
Il avait un peu peur, Étienne, d'avoir le perroquet sur l'épaule.
Oui, toujours que Bibic le mordillait, lui chiait dessus.
J'arrivais tout droit de Rennes, et voilà, donc ils m'ont mis un peu d'eau un peu partout, ils m'ont posé Bibic sur l'épaule et il y a eu leur vision qui est devenue cette image tellement mythique.
Il touchait du bout des doigts tous ses rêves en fait qu'il avait.
Mais cette image a quelque chose de particulière. Grâce à Étienne, je crois, sa force, ouais. Et puis ce petit perroquet qui lui a porté bonheur.
Tous les deux sans personne.
Alors le titre est mythique, la photo est mythique, mais elle ressemble d'ailleurs à la même photo à l'époque, à peu près pour Alain Chamfort. Il avait un single qui s'appelait Rendez-vous et c'était à peu près la même photo.
Oui, je sais. C'était très compliqué pour moi.
C'est la vôtre qui est sortie en fait, hein. C'est celle dont on se souvient, moins de la sienne. Mais c'était
en fait,
compliqué.
J'avais rencontré Lio qui à l'époque vivait avec Alain Chamfort et je venais juste d'avoir l'hectare de la photo, de cette image, et je l'ai montré à Lio. Et quelques semaines après, je me suis fait convoquer par Dominique Le Guerne, qui était la directrice marketing, qui me dit « Regarde ce qui est sorti. »
La maison de disques de Virgin.
Déjà, j'avais beaucoup lutté pour que cette image existe. La maison de disques ne voulait pas du tout de cette image avec Pierre-Égile.
Pour quelle raison ?
Parce que elle trouvait que voilà, enfin, c'était pas une bonne image. Enfin, moi, je trouvais que c'était magnifique.
Une image trop gay, on va dire ?
Peut- Peut-être un peu, mais pas que, hein, pas que, il n'y avait pas ça.
Trop lisse, trop...
C'était voilà, trop coloré, c'était pas du tout dans l'époque, vraiment. Et ils avaient imaginé autre chose. Et moi, j'ai tenu le coup et j'ai tenu bon. Et c'est vrai que le fait qu'Alain copie cette pochette, ça a été très compliqué pour moi. Parce qu'en fait, comme j'étais débutant, tout le monde me disait, bah voilà... T'as pompé sur Champfort, c'était quand même très désagréable pour moi.
Vous vouliez à l'époque d'ailleurs une autre pochette, une pochette, j'ai pu lire, style Ricky Nelson, qui était un chanteur américain de rock, de country. C'est lui le premier qui a chanté l'idole des jeunes, hein, qui a été reprise par... C'était qui Ricky Nelson pour vous? Et qu'est-ce que ça veut dire une pochette à la Ricky Nelson?
C'était une pochette sur un fond... D'ailleurs, j'avais essayé de faire cette pochette sur Mythoman d'ailleurs déjà.
Ah oui, donc véritablement, il y a.
J'ai trouvé que ces pochettes étaient vraiment magnifiques. Sauf que, bon, évidemment, j'avais pas la même tronche. Lui, c'était vraiment un sublime, sublime garçon.
Parmi toutes les autres pochettes, quelle sera celle qui va marquer un tournant pour vous?
Peut-être Paris Ailleurs, aussi, qui était une pochette dont Virgin ne voulait pas.
Ah ben, vous avez eu raison d'insister chaque fois.
Oui, il a fallu à chaque fois insister sur les images parce que c'est l'image parle. De la musique, c'est extrêmement important. C'est pas fragmenté, quoi. Il faut vraiment, quand on a une intuition comme ça, aller jusqu'au bout. Et je me suis battu beaucoup pour un certain nombre de pochettes, pour un certain nombre d'images, la dernière en particulier.
Quand The Best Of est arrivé, donc il y avait ce titre que je ne connaissais pas avec Daniel Darc, j'en ai cherché un autre. Parce que je me suis dit, peut-être qu'il va enfin sortir. C'est le disque que vous avez dû enregistrer, je crois, avec Isabelle Adjani, sous la direction de Pascal Obispo, Samouraï. Vous ne l'avez pas fait, ça?
Si, mais ça n'existe pas.
Ah, ça n'existe pas?
Non.
Mais vous l'avez quand même enregistré?
Je l'ai enregistré, mais je crois qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé entre eux. Et le disque a été annulé, je crois.
C'est-à-dire que jamais on ne pourra entendre ce que vous aviez...
Ah, je ne sais pas, peut-être que Obispo, lui, il a les bandes. Donc, je ne sais pas, il faut passer
par... Non, je me suis dit que peut-être...
Non, moi, j'ai rien eu. Non.
L'enregistrement était convaincant pour vous?
Oui, c'était un projet qui était intéressant. Il y avait beaucoup de gens qui participaient à ce disque. Et Christophe, je crois, entre autres. Il y avait vraiment des artistes vraiment intéressants. Mais je ne sais pas. Tout d'un coup, il y a eu un truc qui ne s'est pas passé. Ils n'étaient plus d'accord.
C'est assez drôle parce qu'en fait, sur tout votre parcours, on se rend compte que quand vous faites écouter vos disques à votre maison, à vos différentes maisons de disques, elles sont plutôt encourageantes, elles sont plutôt d'accord, elles sont plutôt heureuses du résultat. Et souvent, vous vous disputez, enfin, souvent, vous avez à vous battre sur les visuels. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a cette dichotomie-là entre les deux? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi le son ça passe et pourquoi l'image c'est compliqué finalement?
Des fois le son passe pas.
Ah oui, c'est arrivé.
Je me souviens d'un album comme Pop Satori qui a été un moment très décevant pour nous. Je me souviens de Arnold Turboust, ce garçon qui s'appelle Rigo Conning qui faisait l'album avec nous et moi arrivant chez Virgin pour faire écouter cet album et la consternation générale. Tout le monde partait sans trop dire quoi que ce soit. Les gens étaient tellement gênés. Ils trouvaient que l'album était vraiment raté. Et voilà, mais moi je pense que c'est pareil, il faut avoir des convictions, quoi qu'il arrive, il faut suivre son intuition jusqu'au bout, c'est comme ça.
Vous êtes sensible aux critiques sur les visuels, sur vos pochettes, sur vos clips?
Je suis sensible à la critique quand elle provient de quelqu'un pour qui j'ai de l'affection et de l'admiration.
Par exemple, pour un des clips des chansons de l'Innocence Retrouvée, où on voit une jeune femme qui pisse,
oui.
Imagine que la maison de disques a dû encore tourner de l'œil.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Non, ils ne s'attendaient pas à ça non plus, mais moi non plus. Hein.
Ah oui.
Mais j'avais confié ce clip à ce jeune réalisateur. Il a 20 ans et il est vraiment très doué. Il faisait des projections pour une fille qui s'appelle Verity Sussman, qui est une artiste géniale, vraiment intéressante. Et j'ai eu envie de travailler avec lui. J'avais envie d'un clip un peu la John Waters, qui explose un peu le côté glacé. Le côté un peu élégant et tout ça.
C'est réussi?
Oui, moi je trouve que c'est un clip qui m'a beaucoup fait rire.
Super. Alors, Étienne Dao, parce que je sais que vous faites un peu de photos, un peu beaucoup, vous avez rendez-vous ce soir avec Sam Sourdze, c'est le directeur des rencontres d'Arles. Ce soir, c'est l'invité de Perrine Malinge.
Bonsoir Sam Sourdze, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des rencontres d'Arles depuis l'année dernière, commissaire actuellement à Paris de l'exposition qui est consacrée au photographe des stars Philippe Halsmann, au jeu de paume. Cette passion de la photo, Sam Sourdze, comment est-elle née? Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la photo?
Ah là là, il faut remonter loin. Un livre, figurez-vous. de Robert Frank, Les Américains, bien connu, publié en France en 1957. Et ça a été un knock-out, vraiment un coup de poing dans le ventre. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de travailler près de ces artistes-là, avec ces artistes-là. Et depuis, ça m'a pas quitté. Les fonctions ont changé, mais depuis une petite vingtaine d'années, je monte des expositions et j'y prends beaucoup de plaisir.
Vous pratiquez aussi la photographie ?
Ah non, je ne sais même pas comment ça marche.
De votre côté, Étienne Dao, c'est quelque chose que vous faisiez jeune et vous avez repris récemment.
Oui, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, je n'avais pas les moyens. Ça coûte beaucoup d'argent de faire de la photo. Entre le papier de développement, tous les produits et tout ça, donc j'étais obligé de renoncer. Et puis après, la musique a pris le relais, mais j'ai envie d'y revenir. J'aime beaucoup regarder les autres.
Quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce que vous photographiez ? C'était des portraits déjà ?
Les autres aussi.
Ah, les autres aussi. Mm-hmm. Pas de paysage, pas de nature morte ?
Non, ça ne m'intéresse pas.
Au moins, ça c'est clair. Et est-ce qu'il y a, justement, à l'origine de ce qui a été une passion adolescente, un photographe, une œuvre ou quelque chose qui a motivé justement cet intérêt ?
Oh, y en a plein.
Ah oui, quand même. Donc, il y avait véritablement une culture de ce côté-là.
Ah oui, j'ai toujours adoré les images, la photo. Ça a toujours été très important. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé ensuite.
À concevoir les pochettes et à pouvoir les assumer face à Virgin, notamment.
Exactement.
Perrine.
Sam Sturze, ce qui a frappé, c'est l'été dernier à Arles, c'était le mélange des arts. C'était votre première programmation en tant que directeur des rencontres de la photographie. Et il y avait notamment une forte place accordée à la musique, avec Mathieu Chédid, qui mettait en musique Martine Parr, ou l'expo Total Records, 600 pochettes de disques vinyles. Pour, disiez-vous, raconter une histoire de la photographie.
À travers la musique ?
Ben oui, mais je m'aperçois que j'ai tout raté parce que je ne connaissais pas l'histoire de Champfort. Je connaissais la pochette formidable de Pierre et Gilles.
Étienne Dao.
Pour Étienne Dao.
Qui était exposée cet été, pardon.
Qui était exposée, celle de Mikado. Et on refaisait une histoire comme ça des grands photographes. En fait, tous les grands photographes ont fait des pochettes de disques. Et les artistes les plus sensibles à la question de l'image, les musiciens les plus sensibles à la question de l'image, sont toujours battus pour avoir des pochettes qui restaient. Et moi, je suis assez stupéfait, finalement, de voir que la dématérialisation de la musique, c'est pas exclusivement tous les problèmes qu'on évoque, ça en fait partie aussi, mais c'est aussi qu'on perd ce format, alors on l'a perdu depuis le CD, d'une grande image pour illustrer un album. Et on se souvient des albums, non pas en ayant toute la playlist en tête, mais avec une image, le Velvet, c'est la banane.
Il y a un retour du vinyle quand même qui est très important. L'année dernière, par exemple, les ventes de vinyle ont dépassé les ventes de CD. Donc il y a un remplacement comme ça.
Absolument, et tous les groupes
et
veulent
heureusement,
avoir leur...
C'est important d'avoir une image, d'avoir un objet. C'est une petite œuvre d'art quand même.
Et donc on les a exposés, on les a mis au mur, ces pochettes. Et le public adorait. Nous, on s'est bien marré à la faire, mais le public adorait parce que d'un seul coup, ça prenait un peu le statut d'œuvre d'art. Et on se disait, ah mais oui, mais je l'ai chez moi, mais je l'ai prêté, on ne me l'a jamais rendu. Ah bon, mais ça, c'est Andy Warhol, Sticky Fingers. Ah ben j'avais un Andy Warhol chez moi.
C'est quelque chose auquel vous faisiez particulièrement attention, Étienne Dao, les pochettes de disques, justement, même à l'époque, avant même d'arriver à la chanson. Vous regardiez, par exemple, qui était le photographe ?
Oui, de toute façon, il y a des pochettes. Justement, on parlait de la pochette du Velvet. Enfin, ce sont des œuvres d'art. C'est vrai que de les avoir chez soi, c'était très, très fort, très important.
Vous étiez au courant de cette exposition, puisque vous y étiez exposé ?
Oui.
Ouais, on avait peut-être oublié de vous le dire. On l'ouvre en Chine après-demain.
C'est un peu loin.
En changeant le casting quand même, ou en gardant la même exposition.
Il y a juste la petite section porno qu'on a enlevée. Mais pour le reste, il y a les 550 pochettes qui sont en Chine parce que le festival s'exporte et Arles ouvre en Chine dans deux jours.
Il faut le faire à Paris.
Non pour la section porno. Rien que la section porno.
Que la section porno.
Exclusivement.
On discute avec un lieu ou deux à Paris. En fait, cette expo revient après en Europe et va tourner un peu partout.
La section porno, c'est-à-dire pour les pochettes de disques, c'est quoi, par exemple ?
Il y a la photo de Mapplethorpe, de ce black bien loti qui ouvre sa braguette et qui avait fait la couverture d'un disque pirate des Rolling Stones. Lucien Clergue, avec ses Nus dans l'eau, on a fait quelques-unes. Vous souvenez de
je me souviens
David Hamilton
Oui,
il a fait quelques pochettes de disques de jeunes filles langoureuses.
Ah oui, ça c'est la section porno. Il y avait l'image de...